Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le contraire aurait été décevant. À la rubrique « Les tribulations quotidiennes » du député Jean-Luc Mélenchon, il y avait encore quelque chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. En l'occurrence, des propos tenus sur Europe 1 au sujet de la présence de Donald Trump à Paris le 14 juillet. « Il n'est pas du tout le bienvenu », a commenté l'ancien candidat à la présidentielle. Aussitôt dit, aussitôt repris et diffusé ailleurs. Il faut dire que depuis quelque temps, le leader de la France insoumise occupe le terrain des polémiques médiatiques avec une constance qui force le respect. Qu'il s'agisse d'évoquer le matheux Cédric Villani, la responsabilité de Bernard Cazeneuve dans la mort de Rémi Fraisse, qu'il s'agisse d'arriver à l'Assemblée sans cravate, d'y déplorer la présence du drapeau européen, tout ce qui sort de la bouche de Jean-Luc Mélenchon fait le buzz. Les journalistes en profitent tout en dénonçant l'odieux personnage, lequel en rajoute tout en se disant victime d'un acharnement de ceux qu'il s'évertue à nourrir. C'est spectaculaire, mais un peu fatigant à la longue, pas très constructif en tout cas pour reprendre un terme à la mode, à moins que cette confrontation ne relève d'une stratégie mûrement réfléchie. Alors Jean-Luc Mélenchon est-il méchant ? Eh bien, c'est la question étrange, peut-être, que nous allons poser ce soir à trois invités, à commencer par vous, Raquel Garrido, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et vous êtes une des porte-parole de La France Insoumise. Pour discuter avec vous, Marion Lagardère, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à France Inter et à Move, vous avez publié en février dernier chez Grasset « Il est comment Mélenchon en vrai, un portrait du leader de La France Insoumise, fruit d'une fréquentation assidue au cours de ces dernières années ». Puis troisième invité, Sylvain Courage, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et rédacteur en chef à l'Obs. Et pour commencer la discussion, je vous propose d'écouter un petit mix des derniers mots, des dernières interventions de Jean-Luc Mélenchon qui ont fait beaucoup parler ces derniers jours.
Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez ? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer... Ouais, matraqué, toutes les manifestations.
Je sais pas quoi, j'ai vu le matheux, là. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre. Parce qu'il le sait pas. Il le sait pas, tout simplement. Il sait pas ce qu'il y a dedans. Il sait pas que la journée de 8 heures, c'est 100 ans de lutte. Le gars, il croit que ça a toujours été comme ça.
On est obligé de supporter ça. Non, mais attends. Attends, c'est la République française, ici. C'est pas la Vierge Marie, là. Le drapeau de l'Europe. Nous ne supportons pas qu'on nous indique de quelle manière il serait bien séant de se vêtir. Il y a eu dans cette assemblée autrefois des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates, avec ou sans la cravate.
Voilà, ça n'est qu'une sélection, on ne pouvait pas évidemment tout diffuser. Marion Lagardère, vous qui êtes en quelque sorte docteur en mélenchonologie, ces propos qu'on vient d'entendre, est-ce que pour vous ce sont des propos qui sont formulés pour être entendus et pour être médiatisés ? Ou bien est-ce que ça peut être aussi des propos volés, mais qui sont liés au fait que Jean-Luc Mélenchon semble quand même aujourd'hui cristalliser l'attention des médias sur lui, que tout ce qu'il dit est capté.
Il y a plusieurs choses. Déjà, tout n'est pas calculé. Oui, il a une stratégie face aux médias, et il considère que c'est la deuxième peau du système, et que les médias font de la politique. Que c'est pas Marine Le Pen qui appelle TF1 pour faire des sujets sur les migrants, etc., mais que c'est nous, la presse, qui décidons de notre hiérarchie de l'info, et que donc on est un interlocuteur direct pour lui. Après, il y a aussi le personnage, la personne. Oui, c'est quelqu'un de sanguin, c'est quelqu'un de sensible. Quand quelque chose lui vient, quand il a une indignation, il l'émet. Donc tout n'est pas forcément contrôlé. Après, je pense qu'il assume la majorité de ses propos, qui mélange un peu à sa stratégie. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu paradoxal, il y a un peu de tout ça. Et le dernier élément, c'est le feuilleton. C'est que nous, on adore ça aussi. Nous, médias, on adore le feuilleton Mélenchon. La Vierge Marie sur le drapeau européen, c'est quand même scandaleux. La cravate, mais disons, c'est quand même, ça fait un titre facile. Le matheux, ça aussi, ça marche bien. En 145, ça marche très bien. En titraille d'article, ça marche très bien. Donc, finalement, ça sert un petit peu tout le monde.
Nous, journalistes, on adore ce feuilleton. Vous êtes d'accord avec ça, Sylvain Courage ?
Oui, bien sûr, mais il y a quand même en réécoutant là, les extraits que vous avez diffusés, on a l'impression à chaque fois que Mélenchon s'adresse à ses compagnons. Donc on a l'impression que c'est une parole qui finalement est réservée à un groupe de gens avec lesquels il établit une connivence. Mais il sait que ces paroles à ses compagnons sont entendues et vont être répercutées. Et il se sert du scandale que ça produit pour aussi renforcer la césure entre ses compagnons, ceux qui le suivent, et ceux qui ne comprennent rien, ceux qui sont soumis, ceux qui finalement sont les représentants de l'ordre ancien qu'il s'agit de bousculer. Donc il y a une fonction politique dans le double registre que vous soulignez, c'est-à-dire oui, ce sont des propos qui peuvent être perçus comme des propos volés ou des propos privés, mais ils ont une portée générale. Et donc c'est normal que les médias s'en saisissent parce que quelque part... Mélenchon s'exprime un peu en aparté comme au théâtre, mais tout le monde entend ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait l'effet, d'ailleurs, théâtral. Pour le coup, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu d'acteur pour moi. C'est-à-dire que c'est une manière quand même de mettre en scène à la fois sa personne, le groupe qui le suit, et puis tous ceux qui vont s'en indigner et qui sont finalement ses adversaires.
De la technique de la...
Juste pour préciser, il est comme ça en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, il va vous parler du matheux.
Il prend un témoin.
Ça a pas de, voilà. Il va vous expliquer que le drapeau de la Vierge Marie, le concepteur du... Le drapeau de l'Union Européenne, pardon. Le concepteur du drapeau s'était inspiré de la Vierge Marie, il l'a dit, etc. Il parle comme ça aussi en off, comme il parle en on, quoi.
Donc, en tout cas, voilà, de la technique de l'aparté pour être entendu plus largement. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, Raquel Garrido? Est-ce que ça correspond au Jean-Luc Mélenchon que vous connaissez?
Ah, ben le Jean-Luc Mélenchon que je connais, c'est d'abord un propagandiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en permanence en train de construire la conscience. Il y a un niveau de culture, comme disait Gramsci, hein, toutes les batailles politiques sont précédées de batailles culturelles, et donc à tout moment, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire soit on avance sur nos idées, soit on est en train de reculer sur nos idées. Donc il faut trouver des façons d'avancer. Et c'est vrai que la conflictualité du débat politique a été théorisé par Jean-Luc Mélenchon comme une façon de générer cette avancée de conscience. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un est interpellé par une question et doit se positionner pour savoir si oui ou non il est d'accord, hop, il se met à réfléchir et donc ça peut tomber du bon côté, on va dire. S'il n'y a pas cette conflictualité, on est dans l'apathie, finalement on n'est pas obligé, on est dans une sorte d'édredon. Hein, de la société du divertissement par exemple, qui fait que on n'est pas obligé de réfléchir. J'ai bien aimé le titre de votre émission, car est-il méchant? Donc est-il méchant? Je le conçois comme un pied de nez à tous vos confrères, parce que c'est absolument déplorable en réalité comme question du point de vue journalistique.
C'est pas une question journalistique.
Exactement. Ça n'est pas une question journalistique. Exactement. Or, c'est bien parce qu'on est à France Culture et qu'on sait qu'il y a un certain niveau d'approfondissement et de recul, qu'on sait qu'on est dans le second degré, voilà, dans l'autocritique médiatique. Mais si vous saviez à quel point nombre de médias peuvent sérieusement se poser cette question et vraiment être en train de penser qu'ils font un travail de journaliste. Moi, j'ai eu nombre de débats avec de vos confrères qui me disent « Mais pendant la présidentielle, il était sympa, c'était le bon Mélenchon, le gentil, et maintenant, on a le méchant. » Il y a une espèce de côté quasi psychiatrique qui est d'abord tout à fait nul du point de vue journalistique, mais qui remplit, là, vous disiez Manuel Lagardère, une fonction politique là encore aussi. C'est-à-dire, Jean-Luc Mélenchon, le fait de l'attraire dans un corner psychiatrique, ça a une fonction politique, c'est de dégrader sa parole, c'est d'empêcher que lorsqu'il propose des choses sur le fond, hein, la démocratie, la CM1 publique, la justice sociale, l'environnement, etc., on puisse le prendre au sérieux.
Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de ce traitement et de cette approche particulière? Alors, je dois confesser qu'effectivement, la question qu'on pose Jean-Luc Mélenchon est-il méchant, j'avais pas l'intention de vous la poser directement, ce qui me paraît effectivement une question un petit peu idiote, mais il y a eu par exemple une interview très intéressante de lui dans le magazine Society, c'était il y a une dizaine de jours à peu près, longue interview dans laquelle il dit notamment ceci, enfin il fait ce constat, toute mon action est jugée sur ma psyché. Est-ce que c'est possible de faire abstraction de cela quand on parle de Jean-Luc Mélenchon pour vous, Sylvain Courage et Marion Lagardère?
Ça me paraît difficile dans la mesure où, comme l'a rappelé Raquel Garrido, il a théorisé l'idée de créer de la conflictualité. Et donc, il expose ses humeurs. Finalement, il est spontané. Quand il aperçoit le drapeau européen dans l'hémicycle, il en profite pour faire, effectivement, à la fois, il prend position politiquement, il fait une référence culturelle, mais il exprime son humeur de manière très spontanée. Ça attire l'attention et ça provoque forcément une réaction d'humeur. Lui-même, je veux dire, Mélenchon, c'est un corps, c'est une psyché. Il est là. Je veux dire, c'est un personnage. Et donc, c'est normal qu'on juge l'homme en même temps que ses idées. C'est très difficile de séparer en général, mais particulièrement dans son cas, puisqu'il a choisi de monter sur cette scène et comme vous le disiez, de faire avancer sa conscience, enfin ce qu'il croit être la conscience, et et du coup, bah, il peut se plaindre de ce traitement, mais pour moi, c'est quand même une conséquence de son choix stratégique initial.
En même temps, dans les dialogues que vous avez avec lui, Marion Lagardère, dans votre livre, on sent bien qu'à la fois, il a conscience de ses emportements qui, parfois, peuvent être des emportements qui ne sont pas totalement maîtrisés, même s'il essaie d'y apporter un certain nombre d'explications. Alors, le fait qu'il ait ce petit ce handicap qui est celui de la surdité, qui lui fait dire, des fois, j'ai l'air de vociférer, mais c'est parce que je suis pris de court, c'est-à-dire je ne me rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui arrive dans mon champ, dans et là, champ, ça me surprend un peu. Et puis, vous dites aussi, il théorise ses emportements.
Oui, bah parce que c'est le parler cru et dru. Mais du coup, c'est-à-dire que c'est un peu le... Bon, pour moi, c'est comment dire ? C'est tout le paradoxe de la situation. C'est-à-dire qu'on parle de ses humeurs. Comme vous dites, c'est un corps politique, etc. On parle de ses humeurs, alors que chacune de ses sorties, y compris celles qu'on a écoutées dans votre compilation, sont politiques. Mais elles sont profondément politiques. Que ça soit celle sur Villani, où il parle du code du travail, en disant que cette personne, qui est un très grand mathématicien, qu'il appelle le matheux, voilà, ne connaît pas le code du travail parce qu'il était plutôt du côté du patron et que donc il ne connaît pas les codes du travail tels qu'aujourd'hui ils veulent être réformés. Voilà, c'est comme le drapeau européen, c'est politique. Donald Trump, ce matin, c'est extrêmement politique. Ça n'a rien d'outrancier, ce qu'il a dit. Il donne une position sur Donald Trump, mais ça s'analyse pas du point de vue de l'humeur. Pour moi, c'est politique. Et donc lui, il se met dans ce piège où on analyse l'humeur alors que son propos doit être politique. C'est comme l'assassinat de Rémi Fraisse. Mais je pense qu'il l'a regretté.
Sauf que Raquel Garrido, ce qui n'est pas peut-être finalement dommageable, c'est que des propos qui sont éminemment politiques ne vont pas être perçus comme tels, ou peut-être d'ailleurs qu'ils le sont perçus, mais pas forcément dans l'analyse qui en est faite, notamment par les journalistes, et que du coup, ça affaiblit considérablement justement le fond du propos au profit de la forme.
Il y a des cadres aujourd'hui des médias, dans les médias, qui en fait sont assez ne rendent pas service à la pensée politique, et nous, plus on avance dans la fabrication, notamment la construction de la France insoumise, plus on s'aperçoit qu'il y a deux mondes, quoi. C'est-à-dire, il y a le monde, par exemple, des meetings pendant la campagne présidentielle où Jean-Luc Mélenchon pouvait, pendant une heure et demie, parfois même deux heures, développer longuement des sujets où des centaines de milliers de personnes étaient en ligne pour écouter, apprendre, et avaient tout loisir de vérifier, pendant qu'ils parlaient d'ailleurs, sur le même ordinateur dans lequel ils écoutaient tout ce qui était dit. Donc, il n'y a pas de risque de manipulation ou quoi. On n'est pas sur des effets de harangue émotive. Il y avait de l'émotion, mais on parlait aux têtes, ou alors sur la chaîne YouTube, c'est la même chose, la revue de la semaine. Donc il y a tout un espace où Jean-Luc Mélenchon peut développer une pensée qui est très utile. Et puis il y a le cadre contraint et polémiste des médias classiques qui finalement ne rendent pas service à la pensée.
Donc, mais il n'est pas obligé de jouer ce jeu à ce point-là, justement.
Alors justement, bah, pendant la présidentielle, notez-le, il en a fait assez peu des médias classiques. Il a envoyé d'autres personnes devant, en particulier Alexis Corbière, mais d'autres insoumis, nous avons joué ce rôle-là. Et lui, finalement, n'était pas dans une quotidienneté dans ce rapport. Et au législatif, comme tout le dispositif a été modifié, parce que nous, les uns et les autres, on était tous par ailleurs en législative, et que lui s'est retrouvé en première ligne comme candidat aux législatives...
Avant.
Bah, tout de suite après la défaite, en fait.
De l'élection présidentielle, il y a l'affaire de l'Alba, il y a l'affaire de « il est communiste ».
L'Alba, je rappelle, c'est l'alliance bolivarienne.
Les mots de Staline, etc. Voilà, il y a eu tout ce truc.
Oui, mais ça, c'est pas lui qui le dit. Ça, ce sont les pots de banane qui ont été envoyés la dernière semaine par la presse dans une hostilité.
Oui, mais tout ça pour dire que c'est pas seulement si lui est à l'antenne que ça se produit.
Absolument. Mais de toute façon, maintenant, ça revient sur nous. De toute façon, maintenant, même nous, la génération d'après, on commence à faire face au même type de mauvaise foi et d'agressivité que Jean-Luc Mélenchon subit. Bon, après, comment vous dire des fois, on dit il faut faire le dos rond, il faut sourire, tendre l'autre joue, essayer de rester calme. Des fois, ça met les gens en colère. Je peux vous assurer qu'à la maison, les auditeurs, ça les met horriblement en colère. Ça leur donne envie de casser leur télévision, de péter la gueule aux journalistes, d'éteindre leur radio et ainsi de suite. Bon, et à tel point que les gens nous disent « Mais pourquoi vous y allez encore ? Pourquoi vous y allez encore dans ces émissions ? N'y allez pas, c'est que des pièges. » Bon, Donc,
bah écoutez, on verra si ce soir on va vous faire le même reproche par rapport à votre participation. Sur cette question de la mauvaise foi, Sylvain Courage, vous considérez qu'elle est des deux côtés, qu'elle est plus d'un côté que de l'autre?
Il faut prendre des exemples. Mélenchon n'est pas qu'un incompris. Parfois, il dit des choses tout à fait précises et sa rhétorique est fausse. Par exemple, quand il conteste l'élection de la majorité de La République en Marche en disant il y a eu un fort taux d'abstention, donc cette assemblée finalement ne représente qu'un quart de la population. Mais lui-même a été élu dans sa circonscription avec un taux d'abstention de 64%. Donc le raisonnement qu'il tient pour La République en Marche n'est pas valable pour lui. Ce sont ces syllogismes qu'il faut.
Alors là, je ne suis pas d'accord. C'est même l'inverse.
Il s'inclut dedans.
Oui, absolument. On l'a absolument dit pour nous-mêmes.
Comment peut-il le reprocher alors si lui-même est élu dans sa circonscription?
Parce que c'est précisément ce que nous demandons à tous les élus, d'avoir de commencer par avoir l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont élus dans des océans d'abstention, notamment ceux élus dans les quartiers populaires. C'est le cas de tous les insoumis élus en Seine-Saint-Denis en particulier, qui sont élus dans des océans d'abstention.
Et la première, ce qui est ressorti.
Attends, mais je vous assure, les premiers mots qui ont été prononcés, par exemple, par Alexis Corbière en arrivant à l'Assemblée nationale lundi matin, quand on lui pose la question de savoir s'il est fier d'être élu en Seine-Saint-Denis, il dit attendez, moi je n'oublie pas que la moitié des gens ne sont pas venus, la moitié du peuple n'est pas venu. Moi je veux pas être le représentant d'une partie du peuple. Je vais être représentant de tout le peuple et surtout, c'est toujours les mêmes qui sont expulsés. Ce sont les pauvres, ce sont la classe ouvrière, les chômeurs, toujours les mêmes qui sont expulsés. Donc nous commençons par le dire, nous. Et du coup, c'est la première fois. Ça aussi, c'est une nouveauté en politique. Le fait que des élus ne disent pas « Regardez, le peuple souverain en parler, c'est moi et moi et moi. »
J'ai surtout entendu relativiser le raz-de-marée dont a bénéficié La République En Marche. Je pense qu'il est dans une position paradoxale vis-à-vis du système, que ce soit le système médiatique ou le système institutionnel, car aujourd'hui il occupe une place très importante dans ce système. Alors dans le système médiatique avec les paradoxes qu'on a soulignés, mais aussi dans le système institutionnel. Il rentre à l'Assemblée avec un groupe parlementaire et il rentre avec l'idée que il faut être dans la résistance. Mais il n'a pas été élu pour être dans la résistance, il a été élu pour représenter les électeurs au Parlement et donc faire son travail de parlementaire. Je trouve qu'il y a chez lui une façon d'avoir un pied dedans, un pied dehors, qui est très confondant, enfin qui peut vraiment laisser les gens dans une incompréhension totale.
Marion Lagardère, comment est-ce qu'il vit, Jean-Luc Mélenchon, justement cette contradiction, c'est-à-dire de combattre le système tout en y participant, et en y participant en plus depuis de longues années, c'est-à-dire c'est pas un nouveau venu en politique, ancien sénateur, ancien député européen, ancien ministre et aujourd'hui député, ça aussi ça fait partie des discussions que vous avez eues avec lui.
Ben ça il contourne parce qu'il me dit qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse. Donc effectivement oui, il va pas enlever le fait que c'est un homme blanc, âgé, qui a un parcours politique et qui a fait de la politique toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que voilà, il a tout fait pour devenir militant professionnel, comme il dit, et donc depuis les années 70, ben voilà, c'est son parcours. Donc ça, il va pas le changer, et lui, il préfère en faire une force.
Donc il revendique une liberté qu'il nie aux autres, parce qu'il assigne à ses adversaires une place. S'ils sont les représentants de l'ancien système, ils sont des possédants, ils sont des dominants, et lui, ayant eu ce parcours, il s'est accordé une liberté. Aujourd'hui, il vit ça avec liberté, mais les autres ne pourraient pas le faire. Il revendique une liberté individuelle qu'il conteste aux autres.
Bah parce que lui, il dit,
une forme de liberté de conscience, pour parler de la conscience, que les autres n'auraient pas.
Lui, il dit qu'il a été toujours constant sur les en termes de lutte, en termes de voilà, lui il a toujours été constant. Donc lui, c'est ça son argument, c'est de dire moi je suis un militant avant d'être un professionnel de la politique. Donc il s'arrange avec les mots aussi, mais bon, comme il dit, il l'a dit il y a pas longtemps, je partirai les pieds devant. Donc il va pas lâcher la politique, évidemment. Après, on peut lui reprocher, par exemple, il est président de son groupe parlementaire. On aurait pu dire tiens,
c'était l'occasion de promouvoir 18. Quelqu'un.
Bon, il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre, et voilà, ils mettent en avant le fait qu'il y ait une aide-soignante qui a été élue, France Insoumise, pour la première fois qu'il rentre à l'Assemblée. Voilà. Il y a des petits changements qui sont un petit peu ratés, quoi.
Alors justement, sur ce sujet, par exemple, du leadership et de sa façon de diriger son groupe et ses militants, hein, Raquel Garrido, est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction entre le discours et la pratique avec justement une pratique qui serait autoritaire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement dans les commentaires qui peuvent être faits à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose la question en même temps. Je sais bien que c'est une question qui n'est pas forcément très utile journalistiquement parce que je vous vois mal me dire non, non, c'est un dictateur absolu, on a absolument le droit de rien dire. Mais est-ce qu'en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, qui est peut-être discutée d'ailleurs au sein de la France insoumise?
Ben non, c'est plutôt une question, là encore une fois, psychologisante d'une presse qui, mine de rien, ne sait pas faire autrement qu'avec la monarchie présidentielle. Parce qu'on a parlé du corps de Mélenchon quand on parle du corps du roi. Et en fait, c'est la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a joué à merveille ce rôle de candidat à la présidentielle. Et puis du coup, bah, il est traité comme une espèce de demi-dieu. Donc on parle de lui, de son corps, de sa psyché, etc. Alors que quand on regarde objectivement, la France insoumise, c'est sans aucun doute le mouvement qui a fait émerger le plus de porte-parole médiatique, en tout cas nouveau dans cette campagne électorale. Certainement le seul mouvement qui a fait émerger des femmes, parce que vous regardez En Marche, tous les porte-paroles médiatiques.
Quelques députés femmes quand même, dans la République.
Non, mais les députés, il y en a 230. Là, je vous parle de personnes qui sont capables d'aller affronter dans la tranchée médiatique le combat, ceux qu'on envoyait devant.
Laissez-leur peut-être une petite chance.
Là, non, on a mené une présidentielle qui a duré un an, pardonnez-moi, il y a eu une chance. Et pendant un an, les En Marche n'ont jamais envoyé autre chose que des hommes devant. Nous, on peut nous critiquer comme on veut, trouver que les personnalités ou les gens sont comme ils sont, mais n'empêche qu'on a Danielle Simonet. C'est une débatteuse hors pair. Moi, je suis là. On a fait émerger Charlotte Girard. Bon, plein de femmes, quoi. Là, maintenant, la Mathilde Panot, qui vient d'être élue, déjà, elle est en train d'exploser au niveau médiatique. Et l'agressivité vis-à-vis de nous est telle que même on a une émergence encore plus forte, plus rapide que pensée de Daniel Obono. Parce que l'agression qui a été faite à Danielle Obono d'entrée de jeu avec ce délit de faciès,
alors, faut
de contrôle au faciès
qui
directement,
aurait dit, enfin qui avait dit nique la France.
Non,
voilà,
elle l'a pas dit.
Je ne sais même plus.
Elle a signé une pétition pour la liberté d'expression par rapport à un chanteur qui a fait une chanson s'intitulant nique la France.
Voilà, pardonnez-moi. Je vous avoue que si je suis un peu apprécié là-dessus, c'est que j'ai trouvé cette polémique tellement inintéressante. Je m'en suis pas préoccupé davantage. Juste un mot quand même sur la pratique du pouvoir, parce qu'on n'est pas juste dans la psyché. C'est aussi intéressant de savoir comment quelqu'un se positionne en politique à l'égard de ceux qui sont censés être ses administrés. Sylvain Courage, il y a quelques années, alors je crois que c'était en 2013, pour l'Obs, vous aviez fait œuvre de politique fiction, vous aviez imaginé Jean-Luc Mélenchon appelé par François Hollande, alors là vraiment c'était la super fiction, au poste de Premier ministre. Et comment est-ce que vous l'imaginiez, Jean-Luc Mélenchon, au poste de Premier ministre? Est-ce que c'était un Premier ministre autoritaire,
je me souviens plus
démocrate
bien, plus très bien des détails, parce que je n'ai pas relu, mais il ne faut pas trop se relire, parce que souvent c'est douloureux. Ouais. Mais je me souviens
il voulait
très
par
bien,
exemple créer une haute autorité du journalisme.
Oui, voilà.
C'est-à-dire qu'on comprenait que c'était pour remettre un peu au pas les journalistes.
Il se
coulait
bien dans le rôle. Voilà. Et on le voit, ça. On l'a vu se couler dans le rôle du candidat lors des débats de la présidentielle. Effectivement, pour quelqu'un qui détestait la personnification du pouvoir, il a personnifié ces débats. On le voit là se couler dans le rôle du leader de l'opposition, le front soucieux sur les bancs de l'Assemblée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aime le jeu, qui aime la rhétorique, qui aime les mots. Et donc, comme Premier ministre, il trouvait les discours, il trouvait très bien les discours et il aurait très bien pu être Premier ministre. Sans doute l'aurait-il souhaité d'ailleurs à un autre moment de sa carrière, parce que ce qui frappe chez Jean-Luc Mélenchon, même s'il ne faut pas psychologiser, c'est qu'il a quand même été longtemps un militant socialiste, il a longtemps joué le jeu des appareils et puis il a eu une grande déception. Il y avait de quoi être déçu d'ailleurs par le Parti Socialiste après 2002, quand on a abouti à ce désastre de Lionel Jospin, qui avait quand même été celui qui lui avait donné sa chance d'être ministre, car il a été ministre et c'était un ministre extrêmement appliqué, qui portait la cravate et qui ne détonnait pas. Alors il avait sa faconde, mais on sent chez lui quand même, dans sa trajectoire, la volonté finalement de prendre quand même une revanche sur tous ces appareils, sur tous ces gens qui l'ont mal considéré, qui l'ont pas vu à sa juste valeur. Et donc, quand on lui donne l'occasion de briller, il est heureux de briller et il est content de jouer un rôle important.
Est-ce que le désir de revanche pourrait expliquer en partie, si ce n'est intégralement, Marion Lagardère, ces colères. Si je pose la question, c'est aussi parce que vous y consacrez un certain nombre de pages, dans là aussi vos discussions avec Mélenchon, mais une revanche, je ne sais pas d'ailleurs, une revanche contre la société, une revanche contre le sort finalement qui a peut-être été le sien, estimant qu'il devrait être une autre place que celle qui est la sienne aujourd'hui.
Pour moi, il n'y a pas de revanche chez lui, c'est quelqu'un qui a toujours été en décalé. Vous dites qu'il était déçu en 2002, ça date de bien avant, c'est quand même quelqu'un qui a voté contre la guerre du Golfe, donc contre l'avis de François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a renié Maastricht après avoir fait campagne, parce que du coup, comme il avait voté contre la guerre du Golfe, il fallait quand même qu'il fasse campagne pour Maastricht, qu'après il a renié. C'est quelqu'un qui a voté contre son propre parti, tout en étant sénateur. Et après, c'est quelqu'un qui aime la République, qui est un militant politique, et donc évidemment, il est pris, lui, dans cette espèce de... Comment on appelle ça ? Il est pris dans le fait que on a une élection 5e République où on élit une personne où sur le bulletin il y a juste le nom de la personne, tout en proposant de supprimer la 5e République et de passer à la 6e. Donc forcément, ça a l'air d'être tout blanc ou tout noir, forcément c'est paradoxal, donc on va toujours chercher la petite bête, etc. Et c'est tout le paradoxe, c'est d'essayer d'expliquer que oui, pour l'élection présidentielle, on ne peut que présenter une personne, et en même temps, pour passer à la 6e, il faut bien que cette personne remettent en question le système. Après, je pense qu'il incarne énormément les traumas de la gauche, Mélenchon. Il incarne tous les traumas du XXe siècle, le communisme, la déception face au marxisme. Donc on va toujours essayer de pointer chez lui, les mots communiste, Staline, dictateur, ils reviennent pas par hasard, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui cristallise énormément ces passions-là, où à gauche, on se cherche un leader, on se cherche une voix qui serait pure de gauche, et en même temps, on a très peur de la personnification. Il interroge la gauche aussi, je trouve.
Voilà, sur ce que pourrait être sa pratique dictatoriale du pouvoir, je renvoie aussi à ce qu'avait été le titre d'un éditorial du Figaro, c'était avant le premier tour, Maximilien Illich Mélenchon, c'est-à-dire Maximilien, c'est Robespierre, Illich, c'est Lénine, Mélenchon, c'est lui-même, avec l'idée que c'était quelqu'un de révolutionnaire, mais un révolutionnaire qui n'hésiterait pas à avoir une approche extrêmement brutale du pouvoir. Bon, on a évoqué cette question.
Mais c'est classique, pardonnez-moi, mais de la droite. La droite, de toute façon, a toujours eu cette stratégie de diaboliser et mettre du côté de la violence, en fait, les grandes idées émancipatrices de la Révolution française et ensuite de justice sociale.
Dans la violence aussi, les grandes idées émancipatrices.
Voilà, donc par exemple, ça, délégitimer la Révolution française, ça a toujours été une stratégie de la droite et ainsi de suite.
Mais ce qui est frappant. De la droite, c'est des historiens qui l'ont établi.
Bon, on fera un mot sur la question du traitement de la. Oui, mais c'était une guerre et des massacres qui n'avaient pas de rapport avec les massacres des rois avant. Bon, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours eu un courant anti-révolutionnaire à la mesure de la force de ce qu'a été la révolution. Mais ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt à la social-démocratie qu'on doit les mots les plus virulents contre Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est François Hollande lui-même qui, dans la dernière semaine, a commencé à dire qu'il était dangereux, qu'il y avait un danger. La notion de danger, Jean-Luc Mélenchon, c'est directement François Hollande qui l'a amené la dernière semaine, en mettant un signe égal entre Jean-Luc Mélenchon et systématiquement avec Marine Le Pen, ou des personnalités comme Yannick Jadot, par exemple, qui ont été absolument odieux, odieux, odieux pendant les 10 derniers jours à dire que c'était Poutine, que c'était Milosevic, des conneries, mais plus grandes que lui. Mais tout ça pour essayer de délégitimer quelque chose qui quand même n'est pas si compliqué à comprendre quand même. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un homme politique qui accepte l'idée que dans un océan d'abstention, toute institution est illégitime et qu'il faut commencer par remettre de la confiance, enfin pas de la confiance, de la légitimité, et qui accepte lui-même d'être révocable, parce qu'il faut quand même commencer par là. Il dit j'accepte le principe de ma propre révocabilité. Donc en termes d'autoritarisme, franchement, je ne sais pas qui peut faire moins autoritaire que ça. C'est-à-dire il accepte d'entrée de jeu de mettre sa tête entre les mains du souverain, le peuple. Et tous les candidats insoumis, par exemple aux législatives, ont signé une charte, ils acceptent eux-mêmes le principe de leur propre révocabilité. Bon, voilà, donc cette idée d'autoritarisme, c'est faux, en fait. C'est une invention. Et quand vous générez
C'est faux, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire qu'il y a aussi des comportements qui peuvent laisser penser que derrière, il y a une forme d'autoritarisme, parce que l'emportement évoque aussi cet autoritarisme. Mais je voudrais reprendre un autre exemple. Et ce que je trouve intéressant dans la discussion, c'est que d'essayer justement de sortir au-delà de l'écume qui est liée à ces propos, ce que ça révèle de profondément politique, justement, dans ce qu'est Jean-Luc Mélenchon et dans la stratégie qui est la sienne. Reprenons alors cette polémique qui, a priori, paraît totalement anecdotique lorsqu'il parle du matheux. Cédric Villani, en disant, bah voilà, il a jamais vu un contrat de travail de sa vie. Sylvain Courage, alors vous écrivez par rapport
à... Je l'ai pris au sérieux, là.
Par rapport à ça. Là, vous l'avez pris au sérieux. Non, mais voilà, et pour voir ce que ça révélait, je trouve intéressant ce que vous écrivez. Dans le monde, selon Mélenchon, sous-tendu par une conception aussi simpliste que manichéenne de la lutte des classes, il y a les vrais gens et les autres, les nantis, les dominants, les parasites. Et quoi de plus suspect qu'un mathématicien, Staline en son temps, prétendait déjà rectifier la science.
Ce qui m'a choqué, c'est qu'il a... Il a assigné, finalement, il se souvient pas de son nom d'ailleurs, ça c'est caractéristique. L'autre là, celui, le matheux, il connaît rien au travail. Pourquoi ? Parce que c'est un mathématicien, c'est un professeur Nimbus, il ne peut pas connaître les réalités du travail. Mais c'est un tissu de préjugés et c'est une manière de nier tout simplement l'intelligence et l'humanité de Cédric Villani qui est élu dans la même assemblée que lui, mais ces propos-là, pour moi, sont monstrueux. Alors là, on sort complètement de des humeurs, de la polémique et des médias. Il y a derrière...
Pour vous, on n'est pas dans l'anecdote, là.
Ah ben non, pour moi, c'est pas une anecdote. Il se choisit. Il aurait pu s'en prendre à un député entrepreneur. Il aurait pu s'en prendre à un député... je sais pas, qui est corrompu, il y en a. Non, finalement, obsessionnellement, le premier qu'il désigne, c'est le matheux. C'est ce personnage dont on sait pas très bien à quoi il sert, finalement. Est-ce qu'il est du côté du peuple? Il peut pas être du côté du peuple. Et donc, c'est cette façon de diviser la société qui est dangereuse. C'est pas tant l'autoritarisme de Mélenchon, c'est sa pensée qui est dangereuse aussi. Et quand on dit qu'il est dangereux, ça existe. Il y a un vrai danger dans ces idées-là. Faut pas le nier. Elles ont fait déjà des dégâts considérables. Et l'idée qu'on juge quelqu'un en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, c'est dangereux.
Jean-Luc Mélenchon, il voit le monde en termes de lutte des classes, Marion Lagardère.
Ça, oui, toujours, mais je ne sais plus comment s'appelle le grand milliardaire américain qui avait dit aussi la lutte des classes est en cours et on est en train de la gagner. Donc il n'est pas tout seul aussi à voir le monde en lutte des classes. Mais pour revenir à...
Mais quand on voit la lutte des classes, voilà, bah, on appartient à un camp et du coup on combat le camp qui est en face.
C'est un peu le principe. Je pense qu'il voit Villani comme un directeur d'institut. Donc c'est-à-dire que lui, il fait des contrats aux gens, mais ce n'est pas lui qui va défendre son propre contrat. Donc je pense que c'est ça.
Enfin, je pense qu'il s'est aperçu qu'il avait dit une grosse bêtise parce qu'il a fini par faire des selfies
aussi.
Avec Villani.
Voilà, je pense aussi qu'il a fait des selfies
avec Villani. Villani a une réaction plutôt intelligente.
C'est bien la preuve que vous êtes fait un film, là, Sylvain Courage, parce que c'est quand même. Si, voici, là, vous avez dit que c'était monstrueux et tout. C'est faux. D'abord, si vous avez observé la campagne présidentielle, et quand même en tant que journaliste politique, c'était votre rôle. Je présume, vous pouvez pas dire qu'il y a une défiance de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de la science. C'est quand même le seul qui, pendant cette campagne, a mis en avant la question des grandes avancées scientifiques. Et dans son meeting sur l'hologramme, relisez ce discours. C'est une ode à la science. C'est le seul qui en a parlé des grandes frontières de l'humanité, de l'espace, de la mer,
etc. Mais c'est là qu'il fait une bourde, bon. C'est que son sujet, c'est le droit du travail, c'est le code du travail, et il utilise le mot matheux. Après, oui, parce moi, je pense que nous, on a un problème avec la hiérarchie aussi. Parce que, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a un président qui dit que les Kwasa-Kwasa ramènent du Comorien. Ça aussi, c'est dangereux.
Ça, c'est
plus dangereux, quand même.
Et ça a été relevé de manière assez large.
Oui,
aussi,
mais 24 heures, et après, plouf, on n'en parle plus.
Gérard Collomb qui dit que les associations feraient mieux d'aller montrer leur savoir-faire ailleurs et pas à Calais. Voilà, donc il y a une espèce de...
Mais ça veut dire quoi? Pour vous, Marion Lagardère, vous considérez qu'il est moins bien traité que d'autres quand il est dans des propos qui peuvent paraître excessifs?
On pourrait titrer « Gérard Collomb est-il méchant ?» On pourrait titrer « Jupiter est-il méchant ?»
C'est bien, vous me donnez des idées d'émission pour toute l'année prochaine.
Emmanuel Macron est-il méchant ? François Fillon, quand il lâche pas, il ruine son parti intégralement. On peut dire qu'il est autoritaire. François Fillon est-il autoritaire ? Complètement. Voilà. Donc je pense qu'il faut toujours, quand on utilise des adjectifs comme ça, qui sont quand même très subjectifs, très caractérisés, dire par rapport à quoi on le caractérise, par rapport à quoi c'est dangereux, par rapport à qui. Et c'est... Pour moi, c'est là-dedans qu'on va souvent trop vite en 146 ou qu'on va trop vite en titrant.
Sur la tirade matheux, en plus, c'est pas très compliqué juste d'aller voir les mots qui ont été prononcés juste avant et qui disent dans cette assemblée, il y a des gens, des intellectuels, des chercheurs. Enfin, c'est plutôt l'idée de dire.
Matheux, quoi.
Non, mais d'accord. Voilà. Sauf que c'est normalement, ça va. On est, comme vous dites, on n'est pas censé réagir quand on est journaliste selon ses affects. On peut quand même regarder la phrase complète. C'est pas compliqué. Si, si. Est-ce que non, mais pardonnez-moi, mais Là, vous venez de dire que c'était monstrueux, qu'il avait une défiance comme Staline vis-à-vis de la science. Mais c'est lunaire de dire quoi. C'est bête. C'est pas conforme à la réalité de cette campagne présidentielle. Donc, c'est que quelque chose vous a échappé. Et peut-être ce qui vous a échappé, c'est les mots juste avant. Et il dit, on va les convaincre, ces marcheurs, parce que c'est pas des politiciens professionnels. Et qu'on va les convaincre, on va leur parler comme on parle à tout le monde. Et qu'on la lutte, on est pas, et qu'on est là pour convaincre. Et c'est vrai, il oublie le nom et le prénom de Villani.
Souvent.
Non, pas souvent.
Bernard Cazeneuve, il l'a fait de la même manière.
Mais vous n'avez pas dit. Mais là, vous n'avez pas fait un papier en disant Jean-Luc Mélenchon a des trous de mémoire.
Je peux en parler.
Attendez. Vous ne faites pas un papier en disant il a des trous de mémoire. Hein, vous faites un papier en disant il est monstrueux. Donc c'est quand même pas la même type de reproche qu'on peut faire.
Parce qu'on reconnaît une pensée qui a fait des
Sauf que c'est, je vous ai démontré que cette idée de défiance vis-à-vis de la science est absolument impossible. Intellectuellement, elle ne résiste pas au constat de cette campagne présidentielle où il a été le seul à mettre en avant la science. Notre directeur de campagne, Manu Bompard, est un docteur en mathématiques. C'est le plus haut gradé mathématicien qui a mené une campagne présidentielle dans cette campagne de 2017. Donc, je veux dire, c'est délirant de dire des choses pareilles.
Raquel Garrido, est-ce qu'il y a un ennemi ou des ennemis de classe pour Jean-Luc Mélenchon? C'est-à-dire, au-delà du cas Cédric Villani et dit scientifique. Est-ce que y a cette conception du monde là, et est-ce que c'est ce qui guide sa stratégie politique, qui est une stratégie de conquête du pouvoir?
Alors moi je vais vous expliquer, si j'ai une minute, oui j'ai une minute.
Ouais.
Là, moi je suis attachée au vocabulaire qui a été développé par Chantal Mouffe et Ernesto Laclos en sciences politiques.
Donc sur le conflit en démocratie.
La question du populisme en particulier. Et c'est quoi le populisme? C'est ni un programme, ni un régime, ni une idéologie. C'est simplement une stratégie politique qui vise à créer soi-même la frontière entre, puisqu'il y a, quoi qu'il arrive, il y a des conflits, puisque c'est pas vrai que tout le monde va être d'accord, puisqu'il y a de la conflictualité. Créons nous-mêmes la frontière entre les eux et le nous. Bon, alors vous avez par exemple les fachos, ils vont dire nous c'est nous, on a la couleur blanche, on a la nationalité, on est les Français de souche, les eux c'est les immigrés ou les musulmans par exemple. Et nous, moi, voilà, je suis d'accord pour dire aujourd'hui que nous, il y a le peuple et l'oligarchie. Voilà, c'est ça la latéralité, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant avec Macron, c'est que Macron, il a réunifié l'oligarchie. Il a pris les morceaux qui venaient dans la droite traditionnelle, dans la social-démocratie, dans la très haute fonction publique, dans la banque, dans le privé, dans les lobbies. Il a ramassé tout ce monde-là de l'oligarchie, il l'a réunifié. Et nous, oui, effectivement, on est dans un autre camp, qui est le camp du peuple. Alors, évidemment, on n'a pas gagné cette élection présidentielle. Mais c'est effectivement l'objectif de la conquête du pouvoir. C'est l'abolition de l'oligarchie, qui est un régime politique, pour y mettre en la place quoi? La République, la 6e République, où le peuple est souverain.
Sylvain Courage, un grand entretien avec Jean-Luc Mélenchon dans l'Obs. Est-ce que c'est quelque chose?
Ça a déjà été fait, c'est tout à fait envisageable.
Est-ce qu'au-delà du fait que ce soit envisageable, heureusement d'ailleurs que ça l'est, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable à très court terme? Et est-ce est-ce que vous lui avez demandé récemment et d'avoir suffisamment peut-être aussi d'espace pour, au-delà justement de cette écume, expliquer et lui apporter aussi de cette contradiction que vous lui apportez dans vos papiers?
C'est une excellente idée, évidemment, et on est prêt à le faire. Oui, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je reviens quand même sur cette idée de la conflictualité. Il y a d'autres traditions politiques qui considèrent que c'est très dangereux de considérer qu'il y a eux et nous. Parce que c'est cette
mais
frontière.
Mais en fait, il y a nécessairement eux et nous. Mais c'est ça qu'explique à merveille Mouffe et Laclos. C'est qu'il y a nécessairement eux et nous, en fait. Et autant l'organiser selon des formes humanistes pour pas qu'elles soient organisées selon les formes qui existent en Europe, hein, pas partout dans le monde, mais qui en Europe existent très bien, qui est l'extrême droite et la xénophobie.
De maîtriser l'humanisme quand on a posé ce postulat.
C'est la politique. C'est ça la politique.
Une toute dernière question, Marion Lagardère. Vous continuez à le suivre, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui? Vous êtes passé à autre chose?
Non, j'ai fini. Je l'ai suivi à partir de 2011, donc j'ai suivi toute la campagne de 2012.
Et parce que c'est dur à tenir physiquement?
Non, c'est ça, j'ai changé de parcours simplement.
Parce qu'à un moment donné, vous dites quand même aussi, c'est fatigant.
Bah, c'est un personnage qui parle beaucoup. Moi aussi, je suis une pipelette, donc c'est sûr que nos conversations duraient pas une heure, mais quatre heures, et qu'à la base, je l'appelais pour avoir deux, trois off, et ça se transformait. Parce que voilà, comme disait Raquel, il parle de science, il parle d'histoire, il parle d'espace, donc ça s'arrête jamais. Et quand deux curieux sont à une table, et ben ça parle. Après, moi, voilà, j'ai changé de parcours, qui fait que je suis plus journaliste politique à chaud, à faire que des papiers d'une minute. Je suis allée faire une émission sur Move avec des jeunes pour parler de politique parce que je cherchais à parler de politique autrement. Et c'est un vrai sujet, la façon dont nous, journalistes, traitons de la politique aujourd'hui en France.
Et vous êtes d'ailleurs venu en parler il n'y a pas très longtemps sur cette antenne dans le cadre de l'atelier du pouvoir. Voilà ce que, comment les journalistes politiques devraient peut-être évoluer dans leur pratique. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant. Je vous renvoie à la réécoute de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé.
Merci.
Marion Lagardère, Sylvain Courage et Raquel Garrido. Merci également à toute l'équipe du Grand, Antoine Tricot, Cyril Baer, Céline Leclerc, Fanny Richer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise Marie Barret avec à la prise de son et Yacine Moret. Demain, ce sera une émission spéciale Ping Poudre, un mélange entre ping-pong et du grain à moudre. De 18h20 à 19h, nous serons à la librairie de Paris. Nous serons en public, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. C'est du côté de la place de Clichy à Paris, dans le cadre d'une journée spéciale pour le livre. 4 discussions autour du livre et de la librairie, en compagnie notamment, je ne vais pas tous les citer, mais de Véronique Ovaldé, d'Alexandre Jardin, de Corinne Pelluchon ou encore de Gilles Boeuf. Tout ça donc d'ici demain, d'ici 24h. Dans un instant, vous allez retrouver et Martin Kénéen et Mathilde Serrel pour Ping Pong. Ils reçoivent tous les deux ce soir un boxeur, c'est Jean-Marc Mormec qui sort un livre d'entretien qui lui est consacré. Et Claire Diao qui est documentariste, qui sort un essai sur le renouvellement du cinéma français. Mais pour l'heure, c'est le rappel des titres.